rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stawrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles. Victor Ouvrard.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Dans une Europe en polycrise, selon le mot du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, il faut, pour garder confiance en l'Union européenne face à tous les déclinologues, et ils sont nombreux, il faut avoir l'Europe inscrite dans son ADN. C'est le cas de notre invité. Il a étudié en Italie où il est né, mais aussi à Paris, Bruxelles et Londres. Il a travaillé auprès de Romano Prodi à la Commission européenne avant d'être élu député du Parti démocrate. C'est le parti de centre-gauche de Matteo Renzi, l'actuel Premier ministre italien. Il est aujourd'hui à 48 ans, secrétaire d'État chargé des affaires européennes de son pays, l'Italie. Bonjour Sandro Gozzi.
Bonjour.
Vous venez de publier Génération Erasmus chez Plonge, je le montre à la caméra. C'est l'histoire de votre génération qui a pu découvrir l'Europe le temps des études et qui forcément porte un autre regard sur la marche de notre continent que les générations qui vous ont précédé, celle qui a connu la Deuxième Guerre mondiale ou encore celle qui a été marquée par la reconstruction. Sandro Gozzi, votre passion de l'Europe, elle vous prend à quel âge et quel en a été le déclic?
Elle me prend déjà à l'âge de 17 ans, je dirais, parce que c'était le premier moment où je suis allé à l'étranger, encore une fois en France.
L'émancipation.
L'émancipation, encore une fois en France, pour étudier langue et civilisation française. Et c'était l'envie de découvrir, l'envie de connaître, l'envie de voyager. Et je pensais que c'était un cadre dans lequel je me sentais chez moi un peu partout et ça me plaisait beaucoup.
Alors, l'histoire de la construction européenne qui débute en Italie avec la signature du traité de Rome, dont on fêtera les 60 ans l'an prochain, avait plutôt bien commencé. Elle a même été une success story, mais depuis 2008, l'Europe a enchaîné les crises de la Grèce, de l'euro et donc du chômage, des migrants, du terrorisme et donc des frontières. Elle est remise en cause par bien des Européens qui se réfugient dans le vote populiste de droite ou de gauche. En quelques mots, parce qu'on a toutes les missions pour y revenir, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là ?
Que l'Europe a perdu son rôle des multiplicateurs des opportunités. Elle a été perçue même plus de ce qu'elle a été, multiplicateur des contraintes et multiplicateur des inégalités sociales. Et ça, c'est d'après moi à l'origine du rejet. C'est la première cause, pas la seule, mais la première cause du rejet de l'Europe de la part des citoyens. Le fait qu'aujourd'hui, pour les jeunes générations, l'Europe représente de facto beaucoup de leur vie. Parce qu'ils sont beaucoup plus européens que moi.
Ils ont évidemment plus voyagé.
Moi, je rappelle d'Adam Olive que pour venir à Paris, moi, je prenais un train à Bologne à 23 heures qui partait de Florence, s'appelle Galileo Galilei. Il arrivait à la gare de Lyon à 7 heures du matin. À l'époque, il n'y avait pas les low cost. Et les compagnies aériennes des lignes étaient trop chères pour un étudiant. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, qui veut passer un week-end ou veut venir étudier à Paris, il n'a que l'embarras du choix entre les différentes compagnies low cost qui, avec 30 euros, 40 euros, s'ils sont bien réservés en avance, peuvent permettre. Donc ils sont beaucoup plus européens que nous, les jeunes générations. Mais ils sont beaucoup plus déçus parce que, à leurs yeux, l'Europe, c'est justement un multiplicateur de désillusions, des déceptions et des contraintes. Et ça, c'était la conséquence de la décennie perdue. Celle que vous avez rappelée, 2008-2016, c'est une décennie, c'est 8 ans perdus de l'Europe, dans lesquelles beaucoup de fautes ont été commises, et il faut exactement pour cela tourner la page.
Est-ce que ça veut dire que les dirigeants à la tête de l'Europe, à l'époque, n'ont pas anticipé, n'ont pas compris ce qui arrivait ?
Ce
monde qui changeait.
Oui, en fait, pour la première fois, en 2008, et après, avec la crise, pour la première fois, et on a eu des gagnants et des perdants en Europe. Jusqu'à la crise de 2008, tout le monde gagnait par les politiques européennes. Il y avait certains qui gagnaient plus, d'autres qui gagnaient moins. Il y avait des catégories qui étaient plus visées, d'autres moins.
C'était l'époque où on pouvait dire « je vis comme ça, mais mes enfants vivront mieux ».
Exactement. Et c'était un jeu à somme positive. Tous les pays gagnaient, et à l'intérieur du pays, toutes les couches sociales gagnaient quelque chose de l'Europe. Avec la crise, on a eu des gagnants et des perdants. On a eu beaucoup de perdants parmi les travailleurs. On a eu beaucoup de perdants ou des gens qui s'inquiètent des tombées du côté des perdants parmi la classe moyenne. Il y a eu un sens d'inquiétude. Mes enfants ne vont pas avoir le même niveau de vie que moi, alors que moi, j'ai amélioré mon niveau de vie par rapport à mes parents. Donc, inquiétude, peur. Et là, c'était, d'après moi, l'origine de la crise politique. C'est comme ça qu'une crise qui était financière importée des États-Unis est devenue économique pour des mauvaises recettes, des mauvaises réponses de la part des Européens. L'obsession de la dette publique face à une crise qui était financière, qui n'avait pas été produite par la dette publique, a été une erreur, est devenue sociale à cause des inégalités croissantes et est devenue forcément en dernier lieu politique.
Alors, vous consacrez tout un chapitre de votre livre, Génération Erasmus, donc chez Plon, je le répète, à la dictature de l'urgence. Est-ce que ça veut dire qu'on gère au jour le jour et que personne n'a une vision européenne, quand je dis personne, c'est-à-dire les dirigeants, ceux qui sont à la tête de l'Europe, et que la gestion, au bout du compte, elle est laissée aux technocrates?
Oui, c'est ce qui s'est passé pendant la crise financière, économique avant tout. L'Europe n'était pas prête, n'avait pas les politiques, n'avait pas les instruments, n'avait pas les méthodes pour gérer la crise, et les était inachevée et donc elle s'est fait trouver pas prête quand la crise est arrivée. Et après, on a été victime, l'Europe a été victime de la dictature de l'urgence. Donc, il fallait décider très vite. Et pour décider très vite, on s'est confié complètement aux technocrates. On a balayé la bonne méthode, qui est une méthode aussi démocratique, celle qu'on avait appelée la méthode communautaire, la méthode européenne, dans laquelle il y a des gouvernements qui décident au Conseil des ministres, il y a des élus qui décident au Parlement européen. Tout a été confié à des conseillers du prince, à des sherpas, à des conseillers techniques, et tout a été décidé dans des sommets toujours de la dernière heure qui souvent ont, de façon très grave, négligé l'impact social. Et paradoxalement, pour des hauts dirigeants politiques, l'impact politique des mesures pour contrer la crise. C'est vrai, on était au bord du gouffre, on était dans l'œil de la tempête. L'Italie était le grand malade de l'Europe et aurait pu traîner l'Europe vers le désastre, parce que l'Italie de 2011 était vraiment un sujet majeur d'inquiétude pour les Européens et pour le reste
avec
du monde.
Avec un personnage un peu, qu'on a un peu oublié, mais qui s'appelle Silvio Berlusconi, qui était quand même un peu, on va dire, curieux.
Oui, assez original. Mais c'est clair qu'il faut maintenant passer à une nouvelle phase, tourner la page, passer à une nouvelle méthode, passer à la primauté du politique. Et bien sûr, on a besoin de la technique, on a besoin des règles, on a besoin des experts, on a besoin de la technocratie, mais il faut sortir du cercle vicieux dans lequel l'Europe s'est trouvée. Elle est enfoncée entre technocratie et populisme. Parce que les deux choses sont, d'après moi, étroitement liés, étroitement imbriqués.
Il y a quelqu'un qui dit à peu près la même chose que vous. Il n'est pas homme politique, il est cinéaste, il s'appelle Ken Loach, il est britannique, il a reçu il y a quelques jours la Palme d'Or à Cannes pour son film « Moi, Daniel Blake ». À peu près la même chose que vous, écoutez.
Ce monde dans lequel nous vivons se trouve dans une situation dangereuse. Nous sommes au bord d'un projet d'austérité qui est conduit par des idées que nous appelons néolibérales, qui risquent de nous amener à la catastrophe.
On est au bord de la catastrophe, Sandrine Gozzi.
On est au bord de la catastrophe. Il faut continuer avec un peu de bon sens et un peu d'intelligence, qu'on commence à voir un peu c'est ce qui c'est en Europe. Par exemple, on applique les règles européennes de façon un peu plus intelligente maintenant, à savoir de façon plus favorable à la croissance, de façon plus favorable aux investissements, aux réformes. On a enrichi les vocabulaires européens. Si vous prenez le vocabulaire européen, à la lettre I, vous trouviez régulièrement les mots inflation, mais si vous continuez, les termes investissement avaient été éraillés de la carte. Maintenant, on est revenu à parler d'un plan d'investissement. On a un début. Le plan Juncker, ce n'est pas la réponse, c'est une première réponse, mais on commence à parler des politiques des investissements. Finalement, on a compris que les chacun pour soi, sur l'immigration et sur l'asile, c'est la catastrophe pour tout le monde. Et on commence à travailler, on a des négociations sérieuses à Bruxelles sur la question des frontières communes extérieures, d'une police européenne des frontières extérieures, d'un droit d'asile véritablement commun, des relations avec la Turquie, l'Afrique. On commence, mais ce n'est que le début et il faut faire vite. Il faut faire vite, mais avec une méthode plus démocratique. Alors que auparavant, on a fait mal et toujours trop tard.
Vous disiez tout à l'heure que effectivement les technocrates ont pris un peu le pas sur les politiques. Vous venez de l'évoquer un instant. Quelle est la responsabilité de votre courant politique, c'est-à-dire la social-démocratie, globalement très européenne. Enfin, on pourrait y revenir. Tous les sociodémocrates ne sont pas forcément très européens comme vous, mais qui n'arrivent pas à se différencier du courant majoritaire en Europe, qui est celui de la droite conservatrice.
La responsabilité, c'est avant tout que dans cette décennie, les choix fondamentaux ont été des choix dictés ou quand même fortement influencés par la droite. la rigueur, l'austérité, uniquement la priorité uniquement à l'assainissement des comptes publics et pas assainissement des comptes publics, réforme et politique d'investissement pour avoir une approche plus équilibrée. Ceci, c'est les choix des conservateurs, du Parti populaire européen, des droites en général. Et
mais face qui ont à été ça, suivis
face à ça,
parfois.
La social-démocratie parfois a carrément suivi ces recettes, accompagné ces recettes et n'a pas été à même, n'a pas été capable de développer, toujours dans le terrain des jeux européens, une alternative de gauche et une alternative aux politiques qui ont été les seules politiques européennes que les citoyens ont connues. Et ça, c'est un autre problème. Parce que du moment où on disait, et les conservateurs l'ont dit, et les sociodémocrates ont été au moins très timides dans le contre ça, il n'y a pas d'alternative. C'est ça, ce sont les seules politiques économiques possibles. L'austérité, la rigueur, ce sont les seules politiques possibles. Et si c'est des politiques européennes, ou présentées comme imposées par l'Europe, il est clair que les citoyens qui n'étaient pas d'accord avec ces politiques, trouvaient seulement une possibilité, rejeter l'Europe tout court. Et c'est ça une autre des causes du rejet de l'Europe. Si, par contre, on sort de cette cage du « il n'y a pas d'alternative », et on dit « bien sûr », sur le terrain des jeux européens, il y a des alternatives. On doit travailler au niveau européen parce que parfois c'est la seule dimension possible pour permettre à la politique de faire la différence. Pensez au thème de l'immigration, du terrorisme, du gouvernement, de la finance. On ne peut pas les faire avec des politiques nationales. Nous devons les faire avec des politiques européennes. Mais en montrant qu'il y a des alternatives à l'austérité. Et c'est ça le devoir des démocrates et des sociodémocrates aujourd'hui. C'est là qu'il faut que nos leaders travaillent, ils l'ont commencé à faire, mais il faut que nos partis travaillent. Parce que ce n'est pas seulement une question des leaders. Ce n'est pas une question qu'on résout au sommet. On la résout si on commence, entre différentes forces politiques, à travailler ensemble, à développer une nouvelle pensée des gauches européennes transnationales qui dépassent les frontières. Commencer à ensemble à réfléchir aux grandes questions de société.
Mais
et on va découvrir qu'il y a pas mal de choses qu'on doit faire ensemble au niveau européen.
Mais quelle est la réflexion aujourd'hui de la social-démocratie européenne pour dire on a une autre alternative à vous proposer?
C'est celle sur laquelle nous sommes en train de travailler. Une véritable politique de croissance au niveau européen, une véritable politique d'investissement, que ça veut dire donner de nouveaux instruments de développement économique au niveau européen et développer un nouveau plan Marshall pour la jeunesse européenne, par exemple, travailler même au niveau européen pour contrer les chômages, avec des assurances chômage aussi au niveau européen, et à destiner à des régions qui sont particulièrement frappées par la crise sociale et par la crise des emplois. Et travailler aussi sur les droits fondamentaux, l'état de droit. Et il est invraisemblable que les Européens passent des heures et des nuits autour de la table avec des notes faites par les technocrates de Bercy, du ministère de l'économie et des finances italien, etc., à passer au crible les 0,1% de la dette ou déficit de tel et tel autre pays, et qu'ils soient très distraits, voire absents, voire silencieux, quand c'est l'état de droit, c'est les droits fondamentaux, c'est la liberté de la presse, qui sont mis en cause à l'intérieur de l'Union européenne. Ça, c'est une alternative des gauches, une alternative européenne.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on est par exemple un peu trop critique sur d'éventuels dépassements du budget italien et pas assez sur ce qui se passe en Hongrie, en Pologne, par exemple.
Exactement. La question, ce n'est pas plus ou moins d'Europe. La question, c'est, on a des grands thèmes des sociétés. Et pour résoudre ces thèmes, est-ce qu'on a besoin aussi d'action européenne? Oui. Est-ce qu'il y a seule une seule voie possible au niveau européen? Non. Il y a plusieurs voies possibles et il faut développer une alternative européenne des gauches.
Alors pour l'instant, l'alternative, c'est les Européens d'un côté et puis les populistes de gauche ou de droite de l'autre.
Tout à fait. C'est un nouveau clivage qui s'est imposé et qui coupe en deux aussi les familles politiques à droite et à gauche.
D'autant plus que la gauche et la droite, très souvent, ont gouverné ensemble. En Italie, en Allemagne et ailleurs.
Oui.
En Autriche, évidemment.
Et d'ailleurs, souvent les junior partners sortent très affaibli.
Et le junior partner, c'est souvent la social-démocratie, le parti social-démocrate.
Ils sont très affaiblis. Donc, il vaut mieux que les social-démocrates apprennent à gagner les élections. Comme ça, ils ne doivent pas être junior partner dans des grandes coalitions qui ne font que renforcer les thèses de la droite et donc faire augmenter les consensus anti-européens, anti-élites, anti-establishment à l'extrême droite, à l'extrême gauche. C'est une autre des raisons de la crise du politique en Europe.
Est-ce que vous diriez que la social-démocratie était un peu feignante sur le thème de la théorie pour inventer quelque chose d'un peu nouveau?
Absolument. On a eu une grande occasion dans les années 80, 90. et on a fait des grands pas en avant en termes de politique économique au niveau national. Si je pense au-delà du jugement qu'on peut porter sur sa politique européenne, internationale, si je pense au grand travail de renouveau que Tony Blair a fait dans la politique économique au Royaume-Uni, si je pense au grand renouveau économique que Bill Clinton a fait aux États-Unis, si je pense aussi, même si c'était un peu après, aux réformes que Schröder a menées en Allemagne, on voit dans cette époque-là une gauche qui avait fait la différence, a su faire la différence sur certaines grandes questions économiques et sociales au niveau national, mais il a essayé, mais n'a pas été capable de développer une nouvelle gouvernance européenne ou globale de la gauche. Et après, on s'est limité à corriger au marge les recettes d'austérité des conservateurs. Et aujourd'hui, on essaye de répondre à la montée des populistes avec des solutions qui sont à la marge un peu plus démocratiques par rapport à celle des populistes. Ce sont deux recettes pour être perdant sûrement.
Alors, est-ce que le Job Act en Italie de Matteo Renzi, avec qui vous êtes très proche, ou la loi travail aujourd'hui de Manuel Valls, c'est une réponse social-démocrate à la crise?
Oui, parce qu'il se pose la question des inégalités sociales, il se pose la question de qui sont vraiment les derniers. Les derniers sont notamment une jeunesse précaire, une jeunesse qui n'a jamais connu un contrat de travail à durée indéterminée, une jeunesse qui doit travailler sur des mini-jobs chaque semaine, deux semaines, chaque mois renouvelés. Et c'est dès là qu'on doit commencer pour rétablir un peu plus de justice sociale. Et la réforme des Jobs Act, et me semble aussi la réforme du marché du travail en France, vont dans cette direction.
Faciliter, mais ça met des milliers, des centaines embauches. De milliers de personnes dans les rues, en France comme en Italie d'ailleurs.
Bon, en Italie, la protestation n'a pas duré trop longtemps et n'a pas mobilisé vraiment des masses. Je vois qu'il y a des manifestations très fréquentes en France. Je ne suis pas sûr qu'ils soient très participés, mais c'est pas moi. Il me semble qu'ils soient des manifestations très fréquentes avec une participation que je dois juger au grand mouvement des masses françaises ne sont pas vraiment énormes. Et je crois que le gouvernement français a raison d'aller de l'avant parce qu'il faut faciliter les recrutements, il faut faciliter la négociation au niveau des concentrés, au niveau d'entreprise. Il faut sans doute rendre plus facile l'embauche pour quelqu'un, pour un entrepreneur qui veut embaucher un jeune qui n'a jamais connu, qui est du chômage ou des contrats.
Mais Sandro Gozzi, quand on constate qu'en Autriche, par exemple, 80% des ouvriers ont voté pour un parti d'extrême droite, ça vous inspire quelle réflexion?
Ça m'inspire une grande responsabilité, notamment, pas seulement des partis traditionnels, et en particulier des partis de gauche et de centre-gauche, qui n'ont pas su comprendre les nouveaux sujets d'inquiétude, les peurs. Et il y a des motivations réelles. C'est ça, je disais avant. Il y a, avec la mondialisation et avec la décennie d'austérité européenne, il y a des classes sociales qui ont perdu. Il y a des travailleurs qui ont vu leur pouvoir d'achat diminuer, qui ont vu leur avenir en doute. Il y a une classe moyenne qui est de plus en plus en difficulté, de plus en plus inquiète pour son avenir. Et on doit parler à ces électeurs. Il faut être nettement alternative aux leaders populistes. Mais il ne faut pas diaboliser les électeurs des populistes, parce que ce sont aussi nos électeurs qu'on a perdus. Et ce sont des électeurs auxquels on doit montrer qu'on est conscient de leurs problèmes. Vous savez, une inquiétude n'a pas besoin d'être réelle, mais en politique, c'est une réalité si elle persiste. Et donc, il faut quand même pouvoir donner des solutions qui puissent résoudre les problèmes et qui puissent aussi donner la perception qu'on est conscient des inquiétudes des gens. Et ça, les centre-gauche ne l'ont pas fait, les sociaux-démocrates ne l'ont pas fait assez. Et c'est pour cela qu'il faut être nettement alternatif. Donc, en politique économique, je disais investissement, réforme du marché du travail, mais on sait qu'on sait la sécurité, l'immigration. Ce sont des sujets réels, mais il faut montrer qu'on est capable de les gouverner. Si on veut les gouverner, il faut développer des politiques européennes. Parce que si de gouverner la question de l'immigration ou de contrer à la menace terroriste uniquement avec des politiques nationales, ou encore pire, en revenant aux murs nationaux, c'est une réponse totalement illusoire.
Sandro Gozzi, on va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières infos. Et là, on vous retrouve dans 3 minutes, très exactement. À tout de suite.
Géopolitique.
Cruzemos toda Europa.
Rescucha Europei.
Stavrodromi tis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles, Victor Ouvrard.
Rebonjour, rebonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Dans une Europe en polycrise, selon le mot du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, il faut, pour garder confiance en l'Union européenne face à tous les déclinologues, et ils sont nombreux, il faut avoir l'Europe inscrite dans son ADN. C'est le cas de notre invité. Il a étudié en Italie où il est né, mais aussi à Paris, Bruxelles et Londres. Il a travaillé auprès de Romano Prodi à la Commission européenne avant d'être élu député du Parti démocrate, le parti de centre-gauche de Matteo Renzi, l'actuel Premier ministre italien. Il est aujourd'hui à 48 ans, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Rebonjour Sandro Gozzi. Je rappelle le titre du livre que vous venez de publier chez Plon, Génération Erasmus. Alors, sur la liste des principaux problèmes de l'Europe aujourd'hui, il y a bien sûr une économie atone et son corollaire, le chômage de masse, et d'abord celui des jeunes, le terrorisme et l'immigration qui posent la question des frontières et de l'intégration dans le mode de vie européen. J'aimerais que nous commencions par la question des migrations. Et en tant que ministre italien, c'est un sujet que vous connaissez bien, parce que l'Italie, à travers la petite île de Lampedusa, est l'un des points d'entrée des migrants en Europe. Alors, entre ceux qui condamnent l'Europe passoire et ceux qui vouent aux gémonies l'Europe forteresse, comment imaginer une politique européenne de l'immigration qui, pour l'instant, n'existe pas?
Tout d'abord, il est clair que l'Italie a fait pour très longtemps le travail pour tout le monde à la Méditerranée. C'est qu'il est clair que les flux migratoires, les demandeurs d'asile, les gens qui fuient les guerres, les persécutions, ou même les migrants économiques passent par la Méditerranée et arrivent en Italie en pensant à toute l'Europe. Donc je crois que c'était une grosse responsabilité que les autres pays se sont assumés quand ils refusaient de reconnaître que la question de l'immigration et des flux migratoires de la Méditerranée, après de la route balkanique, etc., c'est une des grandes questions européennes.
C'est pas simplement une question italienne.
Et pas seulement une question italienne ou grecque ou espagnole ou un demain, je l'espère pas, mais un demain, pourquoi pas, polonaise, si les choses vont mal en Ukraine. Peut-être que nos partenaires de l'Europe centrale et orientale y pensent, y songent. Et donc, finalement, maintenant, l'Europe a pris conscience. Et donc, finalement, on a commencé à travailler, à négocier sur des politiques européennes sur le thème de l'immigration. Quels sont les points forts? Un, ne nous trompons pas des frontières. Ce n'est pas les frontières nationales, les murs entre nous qu'on doit remettre en place. Il faut travailler sur les frontières extérieures. Il faut faire une politique véritable des frontières extérieures et il faut créer, on a un accord à Bruxelles, il faut poursuivre les négociations avec les parlements européens, un corps de police européenne des frontières extérieures. Ça, c'est la première réponse. Il faut travailler aussi sur un système des droits d'asile commun européen. Il faut que les standards et les procédures sont encore trop différentes. On a eu une première convergence entre les différentes lois nationales sur l'asile, mais c'est pas suffisant. Il faut créer un véritable système d'asile européen avec une répartition de la responsabilité d'accueillir les réfugiés politiques pour tous les pays membres. Jusqu'à maintenant, il y a eu des pays qui ont été beaucoup plus exposés que les autres. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, au contraire, à différemment du passé, aujourd'hui, Rome, Berlin et Stockholm, Italie, Allemagne et Suède sont du même côté dans les négociations parce que ce sont les pays qui ont payé les plus chers les coûts de la non-Europe dans le domaine de l'immigration et de l'asile. Et troisième partie de la réponse, il faut s'attaquer à l'origine des flux. Il faut travailler notamment avec l'Afrique. Il faut nous proposer un nouveau pacte Europe-Afrique. Un nouveau pacte qui est basé sur un nouveau contrat. Les Européens s'engagent encore plus pour faire des investissements et pour favoriser, accompagner les développements africains. Les Africains s'engagent avec les Européens et assument leurs responsabilités dans la gestion des flux et dans la lutte contre les trafiquants des êtres humains. Ce sont les piliers d'une politique européenne possible, nécessaire, et qu'on doit bâtir pas d'ici à 10 ans, mais d'ici à 10 semaines.
Alors, ce que vous venez d'évoquer, ces trois points, Sandro Gozzi, ce sont évidemment des choses qui se mettent en place tout doucement, très lentement, mais pour l'instant, on peut dire que les Européens bricolent, témoins l'accord avec la Turquie sur la réadmission des réfugiés, en échange de bien des conditions. Je vous propose d'écouter François Hollande, qui était chez le confrère européen il y a quelques jours.
J'étais au Conseil européen, et j'ai travaillé avec Mme Merkel pour qu'il y ait un accord avec la Turquie. Donc je ne vais pas aujourd'hui me désengager. Pourquoi il fallait un accord avec la Turquie? La Turquie, c'est un pays voisin de l'Europe, où il y a 2 500 000 réfugiés, qui, pour certains d'entre eux, traversaient au péril de leur vie pour aller jusqu'en Grèce, ce qui a créé l'afflux que l'on sait. Nous n'étions pas les premiers concernés. C'était l'Allemagne, l'Autriche, la Suède qu'il était davantage. Mais j'ai considéré que ce n'aurait pas été loyal à l'égard de Madame Merkel, ce n'aurait pas été européen que ne pas avoir un accord avec la Turquie. Cet accord, il est exigeant. Les milliards dont vous parlez ne peuvent être versés que si les conditions sont respectées. Et les visas ne pourront pas être attribués pour les Turcs si 72 critères ne sont pas eux-mêmes respectés. Alors, je ne suis pas d'accord avec les décisions que prend Monsieur Erdogan, mais il y a un accord qui a été passé avec la Turquie. Cet accord doit être pleinement exécuté.
Donc c'est le soutien.
Il y a des conditions qui ont été posées. Toutes ces conditions doivent être respectées.
Que dire de cet accord signé dans l'urgence avec la Turquie, Sandro Gozi?
Mais le président Hollande a tout à fait raison. Et c'est un accord tant complexe que nécessaire. Et il est inutile qu'on continue à dire « oui, il faut travailler avec les pays d'origine et les pays de transit ». Et après, quand on fait un accord avec les principaux pays de transit pour les flux des réfugiés en provenant de la Syrie, on critique ça parce qu'on l'a fait avec la Turquie. Certes, ça, ceci, pas seulement ne doit pas pousser à céder sur le respect des valeurs fondamentales, doit nous engager à y travailler encore plus. Parce que si la Turquie a eu cette évolution démocratique à son intérieur, d'après moi, c'est aussi en conséquence du gel du dialogue et des négociations entre Européens et Turcs pour une décennie. Et aujourd'hui, d'un côté, on doit respecter l'accord, faire notre part et demander aux Turcs qu'ils fassent leur part de l'accord. De l'autre côté, il faut travailler sur le respect de l'état de droit, des libertés fondamentales, et sans doute, ce sont des sujets qui nous inquiètent. Mais les Européens ont d'autant plus d'influence s'ils s'engagent avec un dialogue, même franc, même dur parfois, avec leurs voisins, que s'ils tournent le dos et renoncent à exercer une influence et à mener des politiques en cohérence avec nos intérêts et avec nos valeurs.
Alors l'an dernier, l'Europe, et surtout l'Allemagne, la Suède, et l'Autriche et d'autres pays du Nord ont accueilli plus d'un million de réfugiés. Ça peut continuer comme ça tous les ans ?
Non, c'était un pic notamment celui des réfugiés en Allemagne. Si vous prenez les chiffres des derniers 15 ans, il n'y a pas eu des augmentations qui justifient la phobie d'une invasion de l'Europe. C'est 0,2% des réfugiés présents en Europe par rapport à la population européenne d'un demi-milliard. Et donc, c'est de ce point de vue aussi qu'il est totalement inacceptable et vraiment... Laissez-moi, c'est vraiment stupide de laisser tellement de terrain aux populistes, alors que les Européens, ils seraient parfaitement à même de gérer de façon juste et de façon efficace les flux migratoires et les flux des réfugiés qui s'adressent à l'Europe. Surtout que ce sont des questions qui sont là pour rester. On doit résoudre la question syrienne, on doit stabiliser la Libye, et sans doute ceci va soulager aussi les flux. Mais la question démographique, c'est une des grandes questions de notre temps. Et c'est une question qui s'imposera toujours plus en Europe. Et c'est une question à laquelle on peut répondre avec des politiques qui vont contre la précarité. On a parlé de la réforme du marché du travail, il faut donner un espoir, une opportunité aux jeunes. Donc, politique de lutte contre les précarités, c'est une réponse, une première réponse à la crise démographique. Donner la possibilité à la jeunesse de construire un projet de vie à 20 ans et pas à 40 ans. Il faut sans doute des politiques familiales, mais on ne peut pas obliger les Européens à faire des enfants. Et donc, le troisième aspect, c'est commencer à gouverner les flux migratoires en sachant que ça, c'est la seule façon de répondre à la grande question démographique. Et les populistes européens, ce sont des populistes qui bénéficient énormément du fait qu'aucune force politique en Europe a eu le courage de parler et de mettre sur la table cette grande question qu'est la démographie.
Alors néanmoins, les populistes en Europe, ils ont le vent en poupe. Alors qu'est-ce que vous avez envie de dire, par exemple, à Viktor Orban, le premier ministre hongrois, ou à Jaroslaw Kaczynski, qui est le vrai maître de la Pologne, qui explique que les réfugiés, c'est un problème allemand et pas un problème européen?
Que la solidarité en Europe, ce n'est pas à sens unique. Et ça marche pas seulement quand il s'agit de recevoir des fonds de développement régional, des fonds agricoles. Ça ne fonctionne pas seulement quand il s'agit d'avoir des milliards d'euros des contribuables italiens, allemands, français ou britanniques. Ça joue double sens. Et quand on demande, dans le respect des traités, dans le respect des politiques européennes, et aux Hongrois, aux Polonais, de faire leur partie face à la crise des réfugiés, de l'asile, ce n'est pas quelque chose qu'on demande poliment, c'est quelque chose qu'on a décidé ensemble et qu'ils sont obligés à respecter.
Alors, qu'est-ce qu'il faut dire aux Polonais? Qu'est-ce qu'il faut dire aux Hongrois?
Il faut dire qu'ils sont rentrés dans une communauté, et dans une communauté où on a décidé de partager plusieurs politiques pour faire face à plusieurs questions communes. Il n'y a pas seulement la question du développement régional, il y a aussi la question de l'asile et de l'immigration, et que du moment où ils ont, de façon libre et démocratique, accepté de faire partie de cette communauté, doivent apporter leur contribution, pas seulement quand c'est strictement dans leur intérêt national, mais aussi quand c'est dans l'intérêt européen d'avancer vers une certaine direction.
Et quand
c'est
vous
comme ça qu'on est en famille.
Et quand vous rencontrez vos homologues hongrois et polonais, qu'est-ce qu'ils vous disent?
Je leur dis exactement ces choses-là.
Et qu'est-ce qu'ils vous répondent?
Ah bah, ils répondent en disant « oui, mais tu sais, c'est difficile parce qu'on n'est pas habitué à l'immigration ». Oui, je sais. Je sais que ils sont pas habitués à l'immigration. Je sais aussi que quand on me donne des réponses comme oui, en fait, si vous nous envoyez des réfugiés et chrétiens, c'est plus facile. Je dis oui. Même s'ils sont blonds, 1m80, les yeux bleus, c'est encore plus facile de les intégrer. C'est pas comme ça. Il faut prendre acte de la réalité. Il faut prendre acte que tous les Européens sont appelés à faire leur partie. Et comme nous sommes très solidaires quand les pays de l'Europe centrale et orientale nous sensibilisent sur des questions qui regardent leur voisinage, et on attend la même sensibilité et le même engagement quand il s'agit des questions qui regardent nous tous, y compris les pays de l'Europe centrale et orientale, comme l'immigration, l'asile ou la lutte contre le terrorisme.
Carrefour de l'Europe, grand témoin, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, nous sommes avec Sandro Gozzi, secrétaire d'État italien aux affaires européennes. Sandro Gozzi, l'intégration, elle se fait comment lorsqu'il y a des citoyens qui vous expliquent qu'au-dessus des lois de la République, des républiques ou des royaumes, hein, c'est selon, il y a la loi de la religion qui est forcément au-dessus?
Ah, pour moi, ça, ce n'est pas un discours qui n'a sa place
dans la... C'est un discours que l'on tient régulièrement en Europe aujourd'hui.
Ce n'est pas un discours qui n'a sa place dans la République, qui soit-elle italienne ou française, n'a pas sa place dans l'Union européenne. La Constitution française, italienne, vient avant tout texte religieux. Vient avant la Bible, vient avant aussi les Corans. Et du moment où on accepte de faire partie d'une communauté, c'est une communauté dans laquelle les lois de la République ou les principes européens viennent avant ses propres
les lois de la République, des républiques en Europe s'imposent à la loi coranique.
Absolument,
Coran.
Absolument, absolument. Et nous, nous devons, nous les Européens, être beaucoup plus exigeants.
On l'a suffisamment dit, ça?
On n'a pas été assez exigeants. Il faut être beaucoup plus exigeants. En Europe, dans nos sociétés, l'homme, la femme est égale à l'homme. Dans nos sociétés, on n'emprisonne pas sous un burqa une femme musulmane contre sa volonté. Contre sa volonté. Dans nos sociétés, on est libre de croire, de ne pas croire, et faire de la satire, même dure, contre ceux qui croient.
On peut se moquer de Mahomet.
On peut se moquer, oui. Et c'est exactement comme ça.
Comme on se moque du pape, hein,
comme du pape, bien évidemment. Et la question de la laïcité de nos sociétés, c'est la meilleure défense aussi pour les minorités musulmanes. Et c'est pour cela que ce sont aussi les minorités musulmanes qui devraient se faire entendre beaucoup plus dans la défense des valeurs de la République et dans la défense des valeurs de l'Union européenne. Parce que la laïcité, c'est défendre la liberté de religion de chacun. Et donc, c'est de leur intérêt. Et il est clair que la religion musulmane, du moment où elle respecte les lois de la République, elle doit avoir toute sa place dans l'espace public. Et nous devons faire en sorte que la liberté des religions soit respectée pour tout le monde. Mais que tout le monde respecte la liberté de croire ou de ne pas croire des autres. On doit être très exigeant. Et même la gauche doit être beaucoup plus exigeante et beaucoup moins frileuse qu'elle l'a été dans le passé.
Vous l'avez trouvé un peu angélique, la gauche?
Je l'ai trouvé naïf. Je l'ai trouvé dans le passé très naïf, très, oui, peut-être angélique. Et je crois que c'est le moment de bien recadrer la question à la lumière des valeurs qui, si nous voulons, soient des valeurs universelles, nous devons prétendre le respect à partir de nos sociétés, de nos arrondissements et de nos communes.
L'immigration, en tout cas, a provoqué la reprise du contrôle des frontières intérieures de l'espace Schengen un peu partout et la construction de murs à la frontière extérieure de l'espace Schengen. C'est par exemple le cas de la Hongrie avec la Serbie ou de la Bulgarie avec la Turquie. C'est condamnable ou pas?
Les frontières et les murs entre États européens ne servent strictement à rien.
Non, non, mais à l'extérieur, la frontière entre la Hongrie, la Serbie, entre la Bulgarie et la Turquie.
Sur les frontières extérieures, il faut trouver véritablement et développer véritablement des nouvelles politiques, là aussi, que puissent donner aux Européens la possibilité de véritablement gouverner les flux. Et ça signifie identifier tous ceux qui passent à la frontière européenne et vérifier qui a le droit de rester parce qu'il est véritablement un potentiel demandeur d'asile. Et évidemment, là aussi, construire des frontières extérieures, des politiques de retour, des rapatriements, de ceux qui n'ont pas les droits de rester en Europe. Et ça, c'est lié un engagement beaucoup plus fort qu'on doit prétendre, notamment des pays africains, mais pas seulement, des pays d'origine, pour développer de nouveaux accords et des politiques de réadmission et de rapatriement qui aujourd'hui sont très peu nombreux et trop peu efficaces. Mais ça, c'est la réponse. La réponse est de travailler, même dans la gestion des flux, et même dans le travail d'identification, travailler au bon endroit. Et au bon endroit, j'en suis convaincu, c'est les frontières extérieures de l'Union européenne dans le respect de nos valeurs.
Est-ce qu'elles sont suffisamment protégées? Est-ce qu'on peut reprocher aux Bulgares d'avoir construit un mur, une clôture entre la Bulgarie et la Turquie? Est-ce qu'on peut reprocher à Viktor Orban d'avoir construit un mur, encore une fois des clôtures, des barbelés entre la Hongrie et la Serbie, sachant que c'est un passage de la frontière
extérieure? Sachant que ce n'est pas la réponse, ce n'est pas le mieux, c'est de faire un travail que tout le monde doit faire. On doit identifier si ce sont des êtres humains. On peut pas les garder derrière un mur. Il faut les identifier. Il faut développer des politiques qui puissent véritablement identifier tout le monde et faire la différence entre ceux qui ils sont là parce qu'il y a des nazis islamiques.
Il y a des réfugiés qui sont des demandeurs d'asile.
Il y a des nazis islamiques qui coupent les têtes.
Et les migrants économiques, bien sûr.
Et les migrants économiques qui n'ont pas le droit à rester en Europe doivent être rapatriés. Mais là aussi, il faut aussi développer au niveau européen des politiques de gestion de la migration aussi économique. Et il faut les faire en travaillant ensemble, essayer de planifier un peu plus ensemble et on peut les faire en engageant les pays d'origine. Et c'est là, je reviens en grand pacte qu'on doit proposer à l'Afrique pour commencer à programmer, à gérer aussi les flux migratoires
ça,
économiques.
C'est le long terme alors que les flux sont aujourd'hui, demain.
Il est absolument nécessaire de donner des réponses efficaces aux flux et à l'émergence aujourd'hui, parce qu'on est obligé, on a intérêt et on doit respecter nos engagements. Mais aussi parce que si on n'est pas efficace aujourd'hui à répondre à la crise des réfugiés, on n'aura aucune crédibilité vis-à-vis de nos citoyens pour développer à moyen et long terme de nouvelles politiques migratoires européennes.
Alors il y a les frontières extérieures et les frontières intérieures. L'Autriche envisage d'avoir un point de passage avec contrôle entre la frontière du Brenner, entre l'Italie et l'Autriche.
Oui, on a vu tout au long de la campagne présidentielle autrichienne qui s'était terminée en début de semaine, une gesticulation électoraliste. On a vu prendre en otage les Brenner pour des raisons des campagnes électorales intérieures. J'espère que ça soit terminé. C'est absolument inutile de suivre des phobies et des peurs qui n'ont rien de fondé. Les données disent clairement qu'il n'y a aucune émergence des flux et des transits entre l'Italie et l'Autriche. Et il serait mieux que nos amis autrichiens travaillent avec nous là où il faut véritablement travailler ensemble, sur les frontières extérieures.
Donc Schengen n'est pas mort pour vous ?
Schengen n'est pas mort et ne doit pas mourir. Mais ça dépend de nous. Si nous ne savons pas développer des politiques des frontières extérieures et un nouveau partenariat avec les pays d'origine de l'immigration, ça sera très difficile de garder notre liberté. Mais sans Schengen, fini Erasmus et fini l'Europe. Parce que l'Europe, c'est avant tout liberté. Et de renoncer à Schengen, ça veut dire renoncer à l'Europe. Et je ne vois pas en quoi renoncer à ma liberté augmenterait ma sécurité.
Le terrorisme, justement, on y vient, il a frappé à Bruxelles, à Paris, mais aussi à Copenhague, Londres et Madrid. Est-ce qu'il y a une réponse européenne au terrorisme? Parce que pour l'instant, les réponses ont été plutôt nationales.
Oui, on a passé, dans les années précédentes, beaucoup plus de temps à s'espionner les uns et les autres qu'à espionner les terroristes. Et que s'y travailler ensemble pour contrer avec un travail d'intelligence contre les terroristes...
Mais on sait que ce n'est pas facile, parce que les services...
Mais il faut dire qu'il y a des pas en avant qu'on a été faits. Même après Charlie Hebdo, on a fait des pas en avant. On commence à travailler, à échanger un peu plus les données entre services secrets et des polices européennes. D'après moi, il faudrait faire beaucoup plus. Moi, j'essaie... Je sais, aujourd'hui, c'est difficile. Moi, je crois qu'on devrait développer un CIA européen, une agence des services secrets d'intelligence européenne, au moins travailler de façon structurée en réseau entre les différents services secrets nationaux et une centrale européenne.
Mais là, c'est encore plus facile à dire qu'à faire.
C'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a des pas en avant qu'on fait. Et le fait que maintenant on a trouvé un accord européen sur les données des passagers, passagers aériens, c'est un pas en avant. Il faut travailler beaucoup plus sur l'échange d'informations de façon efficace, de façon, disons, au bon moment. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est paradoxal, parce qu'on peut pas avoir la libre circulation des citoyens et donc des potentiels criminels et pas avoir une véritable libre circulation des policiers, des juges. Et c'est là qu'il faut travailler beaucoup plus. Moi, je veux pas revenir en arrière. Et pas par rapport à la liberté que j'ai eue grâce à l'Europe, mais je veux que la police et la magistrature, les juges, prennent acte du fait que pour garder ma liberté, ils doivent apprendre à travailler beaucoup plus ensemble.
Alors, on s'interroge parfois sur où sont les grands Européens. Il existe un homme politique d'envergure très très européen, seulement il n'est pas européen, il est américain, il s'appelle Barack Obama, il était à Hanovre le 25 avril dernier.
With strength and resolve and the power of our ideals and a belief in a unified Europe.
Avec force et détermination. Grâce à la puissance de nos idéaux et à la croyance en une Europe unie, nous n'avons pas seulement mis fin à la guerre froide, nous avons fait triompher de la liberté. L'Allemagne a été réunifiée. Vous avez accueilli de jeunes démocraties dans une union toujours plus étroite. Vous pouvez sans doute discuter pour savoir quel pays a les meilleurs clubs de football ou voter pour différents candidats à l'Eurovision. Mais ce que vous avez réalisé demeure l'une des plus grandes réussites politiques et économiques des temps modernes. Oui, l'unité européenne peut parfois exiger des compromis frustrants. Elle crée de nouveaux strates de pouvoir qui peuvent ralentir la prise de décision. Je le comprends. J'ai assisté à des réunions de la Commission européenne. Et nous autres Américains sommes connus pour être méfiants à l'égard de tout gouvernement. Nous comprenons combien il doit être facile de récriminer contre Bruxelles et de se plaindre. Mais souvenez-vous que chaque membre de votre Union est une démocratie. Ce n'est pas un hasard. Souvenez-vous qu'aucun membre de l'Union européenne n'a pris les armes contre un autre pays membre. Ce n'est pas par hasard.
Sandro Gozzi, on ne peut pas s'empêcher de penser que Barack Obama s'adressait directement aux Britanniques qui vont voter le 23 juin pour ou contre le maintien dans l'Union européenne avec le fameux Brexit. Si les Anglais partent, c'est une catastrophe ou pas ?
C'est négatif pour nous et c'est une catastrophe absolue pour eux. Il faut que, au lendemain du référendum britannique, les Européens, et je voudrais notamment Rome, Paris, Berlin, avec les institutions européennes et tous les autres, tous ceux qui veulent, relancent, présentent un nouveau projet et des nouvelles politiques d'intégration européenne, parce qu'il faut absolument relancer les projets européens. Et d'après moi, la relance doit démarrer dès la zone euro et dans les deux cas.
Les Britanniques ne sont pas dans la zone euro, est-ce qu'on ne pourrait pas démarrer plus facilement sans eux? C'est une tentation, sans les Britanniques. Vous êtes pour cette idée de relancer à partir de la zone euro?
Non, moi je crois que l'Union européenne, c'est une Union européenne dans laquelle les Britanniques ont toute leur place. Ils ont une place fondamentale du moment où on parle des politiques de sécurité, on parle des politiques étrangères. Je crois qu'ils ont leur place dans les marchés uniques. Nous travaillons de façon très étroite avec les Britanniques, par exemple, sur le marché unique numérique européen. Et je crois que cependant, dans une Union à 28, on ne peut pas procéder tout le monde dans la même direction, au même rythme, au même moment.
Donc la relance de l'Europe se fait à travers les membres de la zone euro, le noyau dur.
D'après moi, les véritables noyaux durs européens devraient être la zone euro, qui devrait développer des véritables politiques économiques communes, pas seulement des règles budgétaires, mais des politiques économiques communes, qui devrait développer une véritable politique sociale européenne avec des standards des droits des travailleurs vers les hauts et par vers les bas, à commencer par la révision de la fameuse directive des travailleurs détachés. Il faut construire autour de cette zone euro un noyau économique et social gouverné de façon différente, avec un gouvernement de la zone euro qui agisse véritablement sous le contrôle démocratique du Parlement européen et des parlements nationaux, et un ministre de la zone euro qui soit élu et qu'il ne soit pas coopté par ses collègues. Et comme ça, on éviterait de devoir faire des règles européennes comme les two-pack, les six-pack, ces règles incompréhensibles, obscures,
même
règles
budgétaires. Même parfois par ceux qui les créent.
Écoutez, moi, je les ai pas créées, mais je crois que je ne suis pas vraiment étranger aux affaires européennes. J'ai étudié, j'ai enseigné et travaillé des affaires européennes depuis 20 ans. À chaque fois, je dois relire les two-pack, les six-pack, parce que j'oublie le lendemain ce qui s'est écrit. Ce n'est pas possible.
Alors, ça va être le mot de la fin, Sandor Gozi. Et si l'Europe n'existait pas?
Ah bah, ça, c'est une pure hypothèse. L'Europe existe bel et bien, existe dans toutes les choses qu'on a en commun et sont beaucoup plus que les différences, existe dans l'espoir des millions de gens en Europe et existe dans les regards des milliards de gens dans le reste du monde.
Merci Sandor Gozi d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Je rappelle le titre de votre livre, Génération Erasmus chez Plon. C'est un livre plein d'espoir, mais quand même très réaliste. Pour écouter cette émission ou la voir en vidéo, RFI.fr, rubrique émission Carrefour de l'Europe. Réalisateur, réalisation audio, Victor Ouvra. Réalisation vidéo, Nicolas Spiga et Cyril Etienne. On reste en contact via les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Daniel Desesquelles, que vous soyez à Rome, à Paris, ailleurs dans le monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
Priorité santé.